Décryptage, Marie Cazadebey.
Après avoir dévasté les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Barbuda dans les Antilles, Irma frôle à présent le territoire américain de Porto Rico et se dirige vers le nord de la République dominicaine et d'Haïti, avec en ligne de mire la Floride. Les dégâts sont déjà considérables, le bilan humain risque d'être lourd et cruel, selon les mots du président français Emmanuel Macron. Le témoignage de deux habitants de Saint-Barthélemy au lever du jour.
Au réveil, il n'y avait plus rien. C'est comme s'ils avaient enlevé l'âme de Saint-Barth. Saint-Barth ne ressemble à l'heure actuelle à juste un morceau de caillou vide, quoi.
Il y a plus d'une centaine de toits qui a volé.
C'est
carnage.
Les dégâts,
tout est détruit.
Les dégâts sont atroces. Et
on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais on n'a plus d'infos sur le niveau météo. On est inquiet.
C'est compliqué.
On sait qu'il y a quelque chose derrière. Ces deux habitants de Saint-Barthélemy font allusion à José, un nouvel ouragan qui suit la même trajectoire ou à peu près qu'Irma dans le golfe du Mexique. C'est à l'arrivée de Katia que l'on se prépare. A-t-on déjà assisté à un tel phénomène météo? Deux semaines après Harvey, comment expliquer la multiplication des ouragans dans l'Atlantique? Faut-il s'habituer à une telle récurrence? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Michel Colombier.
Bonsoir.
Vous êtes en studio avec nous, directeur scientifique de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Les superlatifs ne manquent pas quand on évoque Irma, l'ouragan du siècle, Irmageddon. En quoi ce phénomène est-il si exceptionnel ?
Alors, on a un ouragan qui est exceptionnel à la fois par son intensité, c'est-à-dire la vitesse des vents. On a des vents supérieurs à 300 km/h, ce qui est absolument énorme. Et manifestement, qui est aussi exceptionnel par sa durée. Il a duré, je crois, plus de 33 heures, ce qui est beaucoup plus que notamment Harvey, qui avait duré beaucoup moins longtemps. Et donc, il est doublement exceptionnel par l'intensité et la durée pendant laquelle il impacte les territoires sur lesquels il passe.
Comment on peut comprendre les dégâts? On en a juste une vague idée, évidemment. On parle d'un œil du cyclone de 50 km² pour une île de Saint-Barthélemy, par exemple, qui ne fait que 7 km de long. Ce sont des vents tourbillonnants qui dévastent tout. Ils sont accompagnés également de pluie.
Alors, un ouragan, c'est en effet à la fois des vents qui tourbillonnent, c'est une machine thermique qui est créée par à la fois la chaleur de la mer et l'air froid de la colonne d'air qui est au-dessus. Et donc, on a des vents qui tourbillonnent, qui montent, et cet air se condense, et on a aussi de très fortes précipitations associées aux ouragans. Et on a un troisième impact qui est que ces vents vont créer une vague qui va bien sûr impacter très fortement les côtes, et notamment, évidemment, dans le cas des îles, impacte très fortement des petites îles.
Alors Irma, je le disais dans son sillage, l'ouragan José, Katia qui menace le golfe du Mexique. Est-ce que c'est courant que les ouragans arrivent par vagues dans cette région ?
Alors oui, les ouragans c'est un phénomène saisonnier, donc c'est pas en soi étonnant d'avoir une répétition d'ouragans. On va avoir d'une année sur l'autre une variabilité évidemment, mais c'est typiquement un phénomène qui arrive dans cette saison parce que les facteurs qui favorisent la formation des ouragans, j'en ai parlé sur la température à la fois de la colonne d'air et de l'eau, ces facteurs-là sont réunis à peu près autour de la mi-septembre.
Donc pour vous, ce à quoi on assiste en ce moment n'est pas très étonnant?
Je sais pas dire si c'est étonnant. C'est étonnant par son intensité, évidemment. C'est quelque chose qui est peut-être un prémisse. On en parlera certainement de ce qu'on peut attendre dans le cadre du changement climatique. C'est certainement étonnant puisque c'est de toute façon quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement avec ce niveau d'intensité-là et auquel on n'est pas préparé.
Irma, je le disais en introduction, se déplace maintenant vers le nord de la République dominicaine et le nord d'Haïti. Écoutez le témoignage recueilli avant-hier par notre correspondante de Jackie Pierre. Elle habite la banlieue de Cap-Haïtien.
Je ne savais pas qu'un cyclone pouvait survenir parce qu'ici, on n'a pas d'électricité. Je vais chercher un refuge, soit au gymnase ou dans n'importe quelle église parce qu'ici, je ne suis pas à l'abri. Les autorités ne nous ont rien dit. Personne n'est informé. Vu qu'on n'a pas d'électricité, on ne sait rien de ce qui se passe en Haïti. Non, c'est pas normal. Si tout le monde était à l'abri, ça serait mieux pour nous tous.
Alors jusqu'à hier, cette Haïtienne n'était pas au courant de rien, de l'arrivée d'Irma. Aujourd'hui, elle l'est. Michel Colombier, on imagine bien que l'impact n'est pas le même. Un ouragan sur un pays riche ou un pays pauvre comme Haïti, qui n'a pas forcément les moyens de prévenir les risques.
Alors, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que l'impact d'un ouragan, ça dépend évidemment de l'ouragan lui-même, de sa force, des vents, etc. Et ça dépend d'un autre facteur qu'on va appeler la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, alors les pays pauvres ne sont pas forcément toujours plus vulnérables. Mais on a évidemment un facteur de vulnérabilité très grand dans les pays pauvres qui est lié à la question de la prévention, de la capacité à anticiper, de la capacité à mettre les populations à l'abri, etc. Ça, c'est un facteur évidemment très important. Et on voit bien que ce type de phénomène fait généralement beaucoup plus de victimes dans des pays comme Haïti. On voit que le nord haïtien a déjà subi un terrible ouragan il y a quelques années, qu'en fait rien n'est encore reconstruit. Donc on a là un facteur de vulnérabilité propre aux pays pauvres.
Et c'est criant dans ce témoignage, pas d'électricité, pas d'information.
On l'entend tout à fait. Et donc ça c'est un facteur important. On pourra y revenir, il y a d'autres facteurs de vulnérabilité, et parfois dans les pays riches ou développés, on peut accroître la vulnérabilité aussi par de mauvaises infrastructures ou de mauvais développements.
C'est-à-dire que l'habitat ne résiste pas.
On a plusieurs facteurs. On a un facteur qui va être lié à la qualité des infrastructures, leur capacité à résister. Et là, vous me posiez la question, évidemment, est-ce que c'est étonnant? On a affaire à des vents exceptionnels, on n'a pas forcément dimensionné les choses pour ça. Donc la qualité des infrastructures, des réseaux, des routes, des maisons, etc. Et on a un troisième facteur qui est important et qui, on le voit très bien, notamment sur les îles françaises, qui est la façon dont on a occupé les territoires, la façon dont éventuellement on a essayé de rendre perméables les côtes, alors que les côtes, normalement, sont des facteurs d'amortissement de la vague qui va arriver, des précipitations, des inondations. Tous ces facteurs-là peuvent être des facteurs aggravants par la surconstruction et notamment à proximité des côtes.
Clairement, on n'a pas pris en compte ce risque-là.
Clairement, on ne l'a pas forcément suffisamment pris en compte.
Oui. Nous sommes au téléphone avec Alix Roumaniac. Bonjour, monsieur Roumaniac.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de la société Predict Services, filiale de Météo France, spécialisée dans la prévision des risques. Vous avez travaillé avec les autorités de Guadeloupe et vous travaillez maintenant avec les autorités haïtiennes pour prévenir au mieux l'arrivée d'Irma. Tout à l'heure, on entendait donc une habitante de Cap-Haïtien, de sa banlieue, qui, jusqu'à il y a deux jours, n'était pas au courant de l'arrivée d'Irma. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces pays-là, en l'occurrence Haïti, pour éviter un maximum de risques?
Alors effectivement, comme vous l'évoquez, notre mission est de dire que dans ce genre d'événement majeur, que ce soit en France métropolitaine, aux Antilles ou dans les pays étrangers, le principe pour diminuer les conséquences de ce type d'événement, c'est une préparation amont par des plans d'action, des plans d'évacuation, des plans de mise en sécurité, des prises de décision en temps réel qui sont cohérentes avec la réalité de la situation, et puis après un retour d'expérience. On se rend compte que même malgré l'énormité de la puissance de cet ouragan, les deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été complètement détruites, et je dirais heureusement que on a eu une chaîne d'information, que ce soit la vigilance cyclone en violet, des prises de décision sur des mises en sécurité massives, des évacuations, pour permettre, même si on ne veut pas éviter les dégâts matériels, de limiter les conséquences humaines.
Par exemple, à Saint-Martin-Saint-Barthélemy, vous l'évoquiez, il y a eu des plans d'évacuation. Les gens ont pu se protéger.
Voilà, tout à fait. C'est le principe. Alors, en France, c'est ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde, c'est-à-dire que c'est une obligation des collectivités d'élaborer, en fait, des scénarios avant que se passe l'événement pour dire que telle zone risque d'être soumise à une inondation par un cours d'eau, telle zone peut être soumise à une inondation par de la submersion marine. Comme l'évoquait votre invité, on a des secteurs d'habitat qui peuvent être un peu fragiles, donc pour des risques grand vent, les gens ne peuvent pas rester sur place et doivent se remettre dans des endroits où les systèmes sont un peu plus sécurs.
Alors, monsieur Roumaniac, voilà, pour revenir à Haïti, on entendait cette personne dire qu'elle avait très peu d'électricité, quasiment jamais. Comment on fait déjà pour prévenir les gens? J'imagine qu'à l'échelle, en plus de ce pays, c'est compliqué.
Oui, alors c'est très compliqué. Donc il faut adapter en fait les stratégies, ce qu'on appelle de communication de crise ou de gestion de l'information, à la réalité de l'État. Alors en Haïti, on travaille avec la direction de la protection civile, et l'organisation d'Haïti est organisée autour des centres d'opération d'urgence. Donc il y a un centre d'opération d'urgence national, le CUN. Il y a des centres d'opération d'urgence au niveau des départements, et il y a des centres d'opération d'urgence au niveau des communes. Et En fait, c'est une chaîne descendante qui part de ce centre d'urgence national qui est piloté directement par le ministre de l'Intérieur ou même la présidence sur des gros événements et qui diffuse départemental. Mmh. Et l'important, c'est qu'il faudra aller après avec des techniques de communication qui sont adaptées notamment aux zones rurales.
Évidemment, l'information arrive évidemment un peu, pas aussi vite évidemment que dans, ouais, que dans des pays plus riches, mais est-ce qu'au final, tous ces gens vont pouvoir se mettre à l'abri ? Est-ce qu'il y a suffisamment de refuges ?
Alors, c'est ça la difficulté. Alors, vous le savez bien, Haïti a été fortement touché en 2009 par ce très gros séisme, fait début 2010, qui a mis un peu à plat toutes les infrastructures du pays, toute l'organisation. Il y a eu beaucoup de ce que j'évoque d'organisations d'entre centres d'opérations d'urgence, etc., qui ont été imaginés et puis remis en œuvre après le séisme. La seule chose, effectivement, c'est qu'il a fallu beaucoup reconstruire en Haïti et les centres d'abri sont un peu insuffisants. Donc, dans les messages que la protection civile fait passer aux habitants, il y a l'indication de centres d'accueil, mais il y a aussi la recherche de faire passer un message en disant trouver des parents ou des amis qui ont des habitats un peu solides qui peuvent vous abriter.
Et là, on comprend mieux en tout cas le caractère de vulnérabilité dont notre invité nous parlait. Irma menace aussi le nord de la République dominicaine. Flavia habite le nord de l'île de Sosua.
C'est la première fois qu'on fait face à une alerte aussi importante. On se prépare, on cloue les fenêtres avec des planches de bois, on range tous les objets du jardin à l'intérieur de la maison, et puis on s'organise pour stocker de l'eau, de la nourriture et tout ce dont on pourrait avoir besoin si on reste enfermé pendant plusieurs jours. Quelle consigne a donné le gouvernement ? Des consignes d'évacuation pour le moment, mais je ne sais pas vers où aller, car en fait toute l'île est en alerte rouge, je ne saurais pas où aller.
Michel Colombier, pardon, je lisais que dans les petites Antilles du Nord, on avait enregistré 9 tempêtes tropicales et 17 ouragans durant le siècle dernier. Est-ce qu'on assiste à une plus grande récurrence de ces phénomènes exceptionnels d'ouragans dans cette région ?
Alors, si on regarde le passé proche, on n'a pas forcément une plus grande récurrence de ces phénomènes-là. Mmh. On a une certaine stabilité, il y a des variabilités d'une année sur l'autre, mais on n'a pas forcément une plus grande occurrence sur le passé. Si on regarde ce que nous disent les modèles des climatologues sur le futur, ils ont tendance aussi à dire qu'il n'y a pas nécessairement une augmentation de l'occurrence des ouragans. Par contre, ils disent qu'il peut y avoir une augmentation de l'intensité, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la vitesse des vents, donc de l'impact, et surtout de l'augmentation des précipitations. Donc ce n'est pas forcément plus d'ouragans. Et ce qu'on voit sur le passé pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on assiste à plus d'ouragans, mais par contre, plus d'intensité, plus impactant à cause des précipitations, ça certainement.
Plus de précipitations parce qu'une eau plus chaude, on peut vraiment faire le lien avec le réchauffement des océans.
Tout à fait. Oui.
Donc ça veut dire quoi ? Une eau plus chaude, donc forcément, à un moment, elle se retransforme.
Cette eau chaude, elle s'évapore. Elle monte dans le cœur de l'ouragan et c'est elle qui, par condensation, va donner ensuite des précipitations.
Propos d'Harvey, le météorologue Eric Holtos, je le cite, il parle du visage du réchauffement climatique. Est-ce que vous diriez ça des phénomènes auxquels on assiste en ce moment ?
Alors, c'est toujours une question un peu piège parce que c'est difficile de dire d'un événement isolé, tiens, cet événement-là est dû au changement climatique. Par contre, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ce type d'événement est assez illustratif de ce à quoi il faut s'attendre dans le cadre du changement climatique. Donc, on entendait les réactions tout à l'heure en disant, ben voilà, il faut savoir se préparer, etc. Oui, c'est certainement à ce type d'événement qu'il faut savoir être mieux préparé à l'avenir. Dire, Harvey, c'est le changement climatique, je crois que personne n'est capable de le dire. Un événement isolé, c'est très difficile. Mais dire, c'est le type d'événement auquel on va devoir se préparer, oui.
Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'il faut se préparer à vivre d'autres Irma.
Très certainement, indépendamment d'ailleurs du changement climatique, mais très certainement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'il y a trois axes importants. Il y en a un, vous le savez, dans le cas du changement climatique, qui continue quand même à être d'essayer d'atténuer, de réduire l'évolution du changement climatique. Ça reste évidemment extrêmement important. Mais on sait que ça suffit pas. On sait que de toute façon, changement il y aura. Et face à ça, on a quand même deux niveaux de priorités, je crois, d'action. Il faut qu'on en parle aujourd'hui. Il y en a un qui est bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire dans les Antilles? Comment on reconstruit? Comment on prend les bonnes mesures? Comment on tient compte des leçons sur la vulnérabilité, ce dont je parlais tout à l'heure, lié au mode de construction, mode d'occupation du territoire? Quelles infrastructures il faut refaire? Et puis, il y a une autre dimension, je crois, qui est importante, et on la voit dans le contraste entre nos îles, Haïti, des pays plus pauvres, qui est la nécessaire solidarité avec tous ces pays beaucoup plus pauvres qui vont évidemment subir le changement climatique et qui n'en sont pas à l'origine.
On va y revenir. Là, on est focalisé évidemment sur l'Atlantique, la région qui concerne l'actualité du jour. Est-ce qu'on assiste à ce phénomène-là aussi? Vous dites qu'il faut se préparer peut-être à des ouragans d'une telle intensité. Est-ce qu'on peut prévoir cela aussi dans d'autres régions du globe, je pense à l'Asie, où là on parle de typhon, c'est bien ça?
Alors les ouragans changent de nom selon les régions, mais en fait c'est le même phénomène. Et on les rencontre un petit peu partout autour du globe, dans ces latitudes-là, dans ces latitudes tropicales. Parce qu'ils sont liés aussi à ce qu'on appelle la force de Coriolis, c'est elle qui permet cette rotation de l'ouragan. Donc oui, des ouragans, on en a typiquement aux Antilles, on en a typiquement aussi en Asie, et on a les mêmes phénomènes, les mêmes dégâts, les mêmes risques.
Un nouveau témoignage dans Décryptage, celui d'un résident de l'hôtel Beach Plaza à Marigot, c'est dans la partie française de Saint-Martin.
On a eu vraiment, vraiment la peur de notre vie, quoi. Des vents violents, des trucs qui explosent, des toits qui partent, des pans de murs qui se cassent, c'était terrible en fait. Je m'attendais à des dégâts, mais pas comme ceux qu'on voit aujourd'hui, ceux qu'on découvre ce matin au réveil. Là. Non, du tout.
Ce témoin l'explique, même les bâtiments les plus solides n'ont pas complètement résisté à l'ouragan, même la préfecture de Saint-Martin a été en partie détruite. Alix Roumaniac, on l'a compris, donc ces régions vont être confrontées à des phénomènes de la même puissance, ou pourquoi pas encore plus fortes. Comment elles peuvent s'adapter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux se préparer aujourd'hui à ce genre de phénomène?
Alors il y a plusieurs niveaux. Votre invité a évoqué toute la partie reconstruction, la partie diminution des vulnérabilités, et puis comme il a évoqué, il y a une deuxième piste qui est la réponse, et c'est l'attitude de l'être humain à accepter cette possibilité et adopter les bonnes attitudes au bon moment. Et on l'a vu, on a beaucoup communiqué, que ce soit Météo France, nous-mêmes hier, sur des informations qui sont importantes. C'est-à-dire que lorsque le cyclone est passé, les gens avaient reçu l'information issue de la vigilance violette maximale de se confiner. Le cyclone a avancé, a commencé à toucher Saint-Barthélemy, puis Saint-Martin, et puis l'œil est arrivé. Et le principe dans un cyclone, par exemple, c'est qu'il y a eu une montée en puissance progressive de la vitesse du vent, puis de la pluie, jusqu'à un niveau maximum, et puis d'un seul coup, l'œil est arrivé, puis ça a été le grand calme. Et là, il y a eu beaucoup de messages qui sont passés aux populations, aux gens qui étaient là, pour dire, attention, vous allez connaître une phase de calme, mais ça ne veut pas dire que le phénomène est terminé, on est juste dans l'œil. Donc, ne lâchez pas la garde, ne ressortez pas pour être à l'extérieur. Vous pouvez sortir pour vérifier, si jamais vous êtes dans un bâtiment qui a été fortement abîmé, pour aller vite en trouver un autre qui soit. Mais ça va revenir, et puis il faut que tout le monde soit à nouveau bien enfermé chez eux quand on va rentrer dans ce qu'on appelle le deuxième mur.
Vous êtes en train de nous dire qu'en fait les habitants de ces régions apprennent au fur et à mesure et sur le tas finalement comment un phénomène climatique se déroule.
Voilà.
Et cette connaissance-là va leur permettre de se protéger mieux.
Voilà, il faut comment elle se déroule, et puis surtout quelle bonne attitude à avoir, c'est respecter les consignes, comprendre tout ce qui est la pédagogie de la vigilance, qui est souvent compliqué à exprimer, la différence entre la vigilance et l'alerte, respecter les consignes des autorités, se renseigner sur la vulnérabilité de là où on habite. Donc c'est toutes ces bonnes attitudes qu'il faut travailler au niveau des enfants, au niveau des adultes, et par de la campagne de prévention, c'est toutes les démarches qui sont engagées. Dans ces pays-là, si on parle au sud de la France, le ministère vient de lancer la fameuse campagne de la saison Cévenol, où le sud de la France.
Ce que je comprends pour conclure, Monsieur Roumaniac, c'est qu'on est obligé de s'adapter. C'est la seule leçon. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous, directeur de la société Predict Service, et merci Michel Colombier d'avoir été en studio avec nous, directeur scientifique de l'IDRI. Merci à Arthur Tossou pour la préparation de cette émission.